5. Seldon avait eu une soirée, une nuit et une partie de la matinée pour se remettre de son entrevue avec l'empereur. Du moins, l'éclairage des passages, des trottoirs roulants, des places et des parcs du secteur impérial de Trentor s'était modifié plusieurs fois, donnant l'impression qu'une soirée, une nuit et une partie de la matinée s'étaient écoulées. Il se trouvait à présent dans un petit parc, installé sur un siège en plastique qui se moulait exactement à son anatomie et se révélait confortable. À en juger par la lumière, c'était le milieu de la matinée, et l'air était juste assez frais pour paraître vivifiant, sans pour autant être piquant. En allait-il toujours ainsi? Il songea au jour gris, au dehors, quand il était allé voir l'empereur, et il songea à tous les jours gris et froids, aux jours torrides ou pluvieux ou neigeux sur Helicon, sa planète, et se demanda si ces alternances de climat pouvaient vous manquer. Était-il possible de rester assis dans un parc de Trentor, en jouissant jour après jour d'un temps idéal, au point de se croire entouré par le néant, et de finir par regretter les vents hurlants, le froid mordant ou l'humidité étouffante? Peut-être. Mais pas le premier jour, ni le second ou même le septième. Et il n'aurait que cette journée-là. Demain, il serait parti. Alors, il avait bien l'intention d'en profiter autant que possible. Il se pouvait après tout qu'il ne revienne jamais sur Trentor. Pourtant, il se sentait encore mal à l'aise après avoir parlé de manière aussi libre à un homme qui pouvait, selon son bon plaisir, ordonner votre emprisonnement ou votre exécution, ou à tout le moins votre mort économique et sociale par la perte de votre position et de votre situation. Avant d'aller se coucher, Seldon avait consulté l'article Cléon Ier dans la partie encyclopédique de l'ordinateur de sa chambre d'hôtel. L'empereur y était fort loué, comme sans doute l'avaient été en leur temps tous ses prédécesseurs, quels que fussent leurs actes. Seldon avait négligé cet aspect, mais s'était intéressé au fait que Cléon était né au palais et n'avait jamais quitté son enceinte. Il n'était jamais allé dans Trentor même, n'avait jamais visité le moindre secteur du monde aux multiples dômes. C'était peut-être une question de sécurité, mais cela signifiait que l'empereur était en prison, qu'il voulût ou non l'admettre. La prison la plus luxueuse de la galaxie, mais une prison quand même. L'empereur avait semblé affable et ne s'était pas comporté en autocrate sanguinaire à l'instar de tant de ses prédécesseurs, mais il n'était pas bon d'avoir attiré son attention. Seldon appréciait la perspective de partir le lendemain pour Helicon, même si, chez lui, il était destiné à retrouver l'hiver, et un hiver plutôt rigoureux jusqu'à présent. Il leva les yeux vers la lumière brillante et diffuse. Il ne pouvait jamais pleuvoir ici, et pourtant, l'atmosphère était loin d'être sèche. Une fontaine jouait non loin de lui. Les plantes étaient vertes et n'avaient sans doute jamais senti les effets de la sécheresse. Par moments, les bosquets frémissaient comme si quelque petit animal y était dissimulé. Il entendait bourdonner des abeilles. Vraiment, par toute la galaxie, on parlait de Trentor comme d'un monde artificiel de métal et de céramique, mais cette petite enclave paraissait tout à fait rustique. Les quelques rares badauds qui profitaient du parc portaient tous des chapeaux légers, parfois tout petits. Il y avait également un joli brin de jeune femme, non loin de là, mais elle était penchée sur un visionneur et il ne pouvait distinguer ses traits. Un homme passa, lui jeta un bref coup d'œil dénué de curiosité, puis s'assit sur une chaise en face de lui et se plongea dans une liasse de télécopie, croisant ses jambes revêtues d'un pantalon rosé étroit. Assez curieusement, il y avait chez les hommes une tendance aux teintes pastel, alors que les femmes étaient plutôt vêtues de blanc. Vu la propreté de l'environnement, il était logique de porter des couleurs claires. Seldon baissa les yeux, amusé, pour contempler son costume héliconien où dominait le brun passé. S'il devait rester sur Trentor, ce qui n'était pas le cas, il lui faudrait s'acheter une garde-robe adéquate, sous peine de devenir un objet de curiosité, de risée ou de répulsion. L'homme aux télécopies, par exemple, l'avait examiné, cette fois-ci, avec plus de curiosité, sans doute intrigué par sa mise exotique. Seldon fut soulagé de ne pas le voir sourire. Il pouvait accepter avec philosophie d'être la cible des railleurs, mais qu'on n'espère pas qu'il en tire plaisir. Seldon fixa l'homme sans se gêner, car celui-ci semblait engagé dans quelque débat intérieur. Un instant, il donna l'impression d'être sur le point de parler, puis il parut se raviser, puis sembla vouloir prendre à nouveau la parole. Seldon se demanda quelle serait sa prochaine réaction. Il étudia l'homme. Il était grand, les épaules larges, pas de signe d'embonpoint, cheveux châtains rasés de près, l'expression grave, un air de vigueur bien qu'aucun muscle ne saillît, des traits un rien buriné, agréable mais sans rien de joli. Alors que l'homme avait fini par perdre son combat avec lui-même, ou par le gagner peut-être, et se penchait vers lui, Seldon avait déjà décidé qu'il lui plaisait. L'homme demanda « Pardonnez-moi, mais étiez-vous au congrès décennal de mathématiques ?»«
Oui, j'y étais, » répondit Seldon, affable.
« Ah, je pensais bien vous y avoir vu. C'était, excusez-moi, la raison qui m'a fait m'installer ici. Si je me montre indiscret,
pas du tout. Je profitais simplement d'un moment de loisir.
Voyons voir si je tombe juste. Vous êtes bien le professeur Seldon.
Seldon. Harry Seldon. Tout juste. Et vous?
Chester Amin.
L'homme paraissait légèrement embarrassé.
Plutôt banal comme nom, je le crains.
Je n'ai jamais encore rencontré de Chester, observa Seldon. Ni de Amin.
Cela vous rend en quelque sorte unique, à mon sens.
On pourrait estimer que c'est toujours mieux que d'être noyé parmi les innombrables Harry, ou les Seldon d'ailleurs. Seldon rapprocha sa chaise en raclant les pieds contre les dalles de céramoïde légèrement élastiques.
« À propos de banalité, reprit-il, que pensez-vous de ma mise exotique?
Je n'ai pas du tout pensé à me procurer des vêtements trentoriens. »
Vous pourriez, dit Amin, lorgnant Seldon avec une trace de désapprobation.
Je pars demain. Et par ailleurs, ce ne serait pas dans mes moyens.
Les mathématiciens manipulent parfois les grands nombres, mais jamais pour ce qui est de leurs revenus.
Je présume que vous êtes mathématicien, Amin?
Non. Je suis nul en la matière.
Hein?
Seldon était déçu.
Mais vous avez dit m'avoir vu au congrès.
J'ai assisté en observateur. Je suis journaliste.
Il brandit ses feuillets de téléscripteur, parut soudain prendre conscience de les avoir dans la main et les fourra dans sa poche de veste.
Je fournis du matériel aux holojournaux.
Puis pensif.
À vrai dire, je commence à en avoir marre.
Du boulot?
Amin acquiesça. J'en ai ras-le-bol de collationner toutes les sottises émanant de toutes les planètes. Je hais cette spirale descendante.
Il jeta sur Seldon un regard spéculatif.
Parfois, pourtant, on pêche quelque chose d'intéressant.
J'ai appris qu'on vous avait vu en compagnie d'un garde impérial vous dirigeant vers la porte du palais. Vous n'auriez pas par le plus grand des hasards été reçu par l'empereur, non?
Le sourire déserta le visage de Seldon. C'est avec lenteur qu'il répondit.
Si tel avait été le cas, ce ne serait certes pas un sujet que je confierais pour publication.
Non. Non. Pas question de publication.
Si vous ignorez la chose, Seldon, laissez-moi être le premier à vous l'apprendre. La règle première du jeu de l'info est qu'on ne dit jamais rien sur l'empereur ou son entourage personnel, hormis ce qui émane des communiqués officiels. C'est une erreur, bien sûr, parce que des bruits courent et qu'ils sont pires que la vérité. Mais les choses sont ainsi.
Mais si vous ne pouvez pas en parler, l'ami, pourquoi me poser la question?
Simple curiosité personnelle. Croyez-moi. Dans mon boulot, j'en sais bien plus que n'en diffusent les ondes.
Laissez-moi deviner. Je n'ai pas suivi votre communication, mais j'ai cru comprendre que vous parliez de la possibilité de prédire l'avenir.
Seldon secoua la tête et marmonna.
C'était une erreur.
Je vous demande pardon?
Rien.
Eh bien, la prédiction, une prédiction précise, intéresserait l'empereur. ou tout homme au pouvoir. J'en déduis donc que Cléon Ier du nom vous a interrogé là-dessus, en vous demandant si vous ne vouliez pas lui offrir quelques prédictions. Je n'ai pas l'intention de discuter de ça, fit Seldon crispé. Hermine esquissa un haussement d'épaule. Eto des Merzel était là, je suppose.
Qui ça? Vous n'avez jamais entendu parler d'Eto des Merzel?
Jamais.
L'alter ego de Cléon. Son cerveau, son esprit maléfique. On lui a donné tous ces qualificatifs, si l'on se limite au plus aimable. Il devait être présent.
Seldon parut perplexe, et Hermine poursuivit.
Eh bien, vous ne l'aurez peut-être pas vu, mais il était bien là. Et s'il pense que vous pouvez prédire l'avenir,
je ne peux pas prédire l'avenir, dit Seldon en secouant la tête avec vigueur. Si vous avez bien écouté ma communication, vous savez que je n'ai parlé que d'une possibilité théorique.
Toujours est-il que si lui pense que vous pouvez prédire l'avenir, il ne vous laissera pas échapper.
Il a bien dû, puisque je suis ici. Ça ne veut rien dire.
Il sait où vous êtes et continuera à le savoir. Quand il voudra vous avoir, il vous récupérera où que vous soyez, et s'il décide que vous êtes utile, il vous pressera comme un citron. Et s'il décide que vous êtes dangereux, il vous pressera jusqu'à ce que mort s'en suive.
Seldon le fixa. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? M'effrayer?
J'essaie simplement de vous mettre en garde.
Je ne crois rien de ce que vous racontez.
Non?
Il y a peu, vous avez parlé d'une erreur. Pensiez-vous qu'en présentant votre communication, vous aviez commis une erreur et qu'elle vous avait conduit à des ennuis que vous auriez préféré éviter?
Seldon se mordit à la lèvre inférieure, mal à l'aise. Cette déduction tombait bien trop près de la vérité à son goût. Et c'est à ce moment précis qu'il décela une présence.
Les intrus ne jetaient aucune ombre, car la lumière était trop douce et diffuse. Ce fut un simple mouvement qui accrocha le coin de son regard avant de s'interrompre.